Vous écoutez On lit pour vous.
Énergisez-vous. Un texte d'Alain Vadeboncœur publié dans l'Actualité, édition de décembre 2025. Avez-vous faim? Sentez-vous un brin de fatigue? Alors votre cerveau, plus précisément son poste de commandement, appelé hypothalamus, vous envoie fort probablement un signal essentiel à votre survie. Il est temps de manger une pomme ou ce que vous voulez. Voilà une belle démonstration de la gestion énergétique de notre métabolisme qui nous permet de demeurer en vie chaque jour de notre vie, parce qu'il s'agit, bien entendu, d'un enjeu absolument crucial. Cet enjeu, ne retenez surtout pas votre souffle, consiste à reconstituer constamment les stocks d'adénosine triphosphate cellulaire, ou, dit plus simplement, d'ATP cellulaire. C'est par exemple grâce à cette étonnante molécule que vous arrivez à lire ce texte, car le cerveau en est particulièrement friand. Mais je sens votre crispation à l'évocation de ce composé chimique qui vous rappelle sans doute vos années du secondaire. Vous savez, l'époque lointaine où il fallait mémoriser cette satanée chimie organique. Notez que ce n'était pas non plus ma matière préférée. Si j'avais su à quel point l'ATP me laisserait sans voix quelques décennies plus tard, parce qu'il ne s'agit pas d'une molécule quelconque parmi les milliers de substances qui nous constituent, elle permet littéralement à peu près tout ce qui se passe dans nos cellules et dans tous les êtres vivants. Et ce, depuis au moins 3,8 milliards d'années. En fait, l'ATP a probablement été synthétisé par ce mystérieux, guillemets, dernier ancêtre commun universel, fin des guillemets, qui porte le petit nom de LUCA, L-U-C-A, dont toute la vie actuelle descendrait, y compris tous les LUCA d'aujourd'hui, et même ma chatte grisoune. Cette molécule lui aurait alors conféré un énorme avantage énergétique, lui permettant notamment d'avoir beaucoup d'enfants. Dans nos tréfonds, nous retrouvons à chaque instant un stock d'environ 50 grammes d'ATP, ce qui est pourtant bien peu, parce que cette réserve nous accorde moins d'une minute de vie. Et nous devons en produire, tenez-vous bien, environ 70 kilos par jour, soit 1400 fois plus. Je vous en épargne la complexe genèse pour mieux me concentrer sur l'ajustement constant de l'équilibre entre l'ATP et sa petite cousine, l'ADP, aussi sa précurseur immédiate. Il est facile de les distinguer. Si le T signifie tri, soit 3, le D d'ADP désigne 10 ou 2. Et comme le P exprime groupe phosphate, la transition d'ADP en ATP s'effectue en ajoutant un troisième groupe de phosphate. Simple, non? Bien sûr, greffer ce précieux phosphate requiert beaucoup de ressources provenant de nutriments variés, comme les glucides d'une pomme, utilisé par une chaîne chimique cellulaire, ma foi, fort compliquée. Preuve de son importance, nous passons notre temps à le régénérer et à bon droit, puisque l'ATP se trouve au cœur de la majorité des mécanismes de la vie, sorte de monnaie énergétique universelle. Sous l'effet d'enzymes variées, l'ATP se retransforme ensuite en ADP, libérant son énergie potentielle en produisant ses effets salutaires, comme de la chaleur, du mouvement, des fibres musculaires par exemple, du pompage, nos pompes à sodium et à potassium qui gardent intègres nos cellules, de la chimie, les assemblages de protéines, et même de l'électricité, celle de vos neurones fort actifs en ce moment. Ces actions électriques se produisent en continu dans chacune de nos 37 000 milliards de cellules pour permettre tout ce que vous pouvez imaginer. Et l'ensemble de la vie sur Terre en dépend tout autant. En fait, aucun être vivant connu ne fonctionne sans ATP. Cela coule de source, mais interrompre la production d'ATP est évidemment incompatible avec la vie. Nos maigres réserves ne nous autoriseraient même pas à franchir plus de quelques pas. Et la plupart des maladies graves aboutissent tôt ou tard à une chute locale ou généralisée de la fabrication d'ATP, ce qui conduit à la mort si la médecine n'intervient pas pour inverser le cours de cette déchéance énergétique. Mais ne vous inquiétez pas, nos mécanismes de création d'ATP demeurent intègres pendant toute la vie, du moins tant que nous sommes en bonne santé et pour peu que nous apportions régulièrement à nos cellules les nutriments essentiels et de l'oxygène comme pour la majorité des êtres vivants. Et bien sûr, on peut optimiser ces fonctions par l'exercice régulier, une alimentation saine, la gestion du stress, le traitement des maladies métaboliques comme l'hypertension et le diabète et l'éloignement de la pollution et du tabac. Ainsi, croquer une pomme reproduit et célèbre tout à la fois l'ATP originel, plutôt que le péché homonyme, au cœur d'un cycle énergétique amorcé par nos lointains ancêtres qui ne s'est probablement jamais interrompu. Fin de cette chronique du docteur Alain Vadeboncœur, titrée « Énergisez-vous », publiée dans l'actualité, édition de décembre 2025.
Inauguration populaire du tronçon Est du rêve Henri Bourassa. Un texte de Sarah Collardet, paru le 16 novembre 2025 dans Le Devoir. Le 16 novembre 2025, une centaine de cyclistes se sont réunis dans l'arrondissement de Montréal-Nord pour inaugurer une nouvelle portion du réseau Express Vélo Rêve sur le boulevard Henri Bourassa, dans un contexte où son avenir semble compromis. L'organisme Vélorussion a organisé cette inauguration familiale à l'intersection de l'avenue des Récollets et du boulevard Henri Bourassa pour témoigner de la pertinence de ce corridor de mobilité durable combinant un rêve et un service rapide par bus, SRB. Le nouveau tronçon se rend de l'avenue des Récollets jusqu'à la rue Saint-Firmin. Par la même occasion, l'objectif du rassemblement était de dénoncer le fait qu'il ne faut absolument pas ralentir les progrès qu'on a faits, affirme Séverine Lepage, porte-parole de Vélorussion en entrevue avec Le Devoir. La nouvelle mairesse d'Anse-Cartierville, élue sous la bannière d'Ensemble Montréal, Maude Théroux-Séguin, a annoncé dans les médias vouloir se pencher sur ce corridor de mobilité durable qui, à terme, doit relier le boulevard Lacordaire à l'autoroute 13. Madame Théroux-Séguin n'a pas exclu de démanteler la piste cyclable, estimant que peu de cyclistes utilisent le rêve. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut faire les liens manquants, les tronçons qui manquent, parce que c'est ça qui sécurise toutes les pistes cyclables, souligne Madame Lepage. Lui donner une chance. On pourrait peut-être lui donner une chance. Elle n'est pas ouverte au complet, qu'on parle déjà de la fermer, on peut juste l'essayer, propose Julie Allard, une résidente du quartier qui prend régulièrement son vélo pour se rendre à son travail dans le centre-ville. « On est loin, on pourrait nous aider », dit-elle en référence au manque de transport en commun dans le nord de l'île de Montréal. En réponse à la nouvelle mairesse de l'arrondissement, Annie Gosselin estime qu'il faut laisser le temps aux gens de découvrir, de s'adapter, avant de recommencer à refaire tout un autre chantier. « C'est tellement prématuré, la piste vient d'être faite », ajoute celle qui vit sur l'avenue des Récollets et qui se déplace à vélo tous les jours. Jean-François Gagné, le porte-parole de l'Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord, déplore que le rêve, sur le boulevard Henri Bourassa, constitue l'une des rares fois où la sécurité des cyclistes et des piétons est prise en compte sur une artère principale. Les accidents à Montréal-Nord, ils arrivent tous sur des artères principales. Selon les chiffres de son association, chaque année, il y a 200 accidents sur Henri Bourassa de piétons, d'automobilistes et de cyclistes. M. Gagné fait valoir que pour diminuer ce nombre d'accidents, il faut faire en sorte que les automobilistes ralentissent et que le rêve est une excellente façon de le faire. Les commerçants. Le projet du corridor de mobilité durable ne fait pas l'unanimité dans l'arrondissement. Les sondages de la ville montrent que 47% des citoyens appuient le projet et que 49% s'y opposent. L'enjeu des places de stationnement pour accéder au commerce revient toujours en première ligne. On parle beaucoup des commerçants, mais il y a énormément de résidents, de gens qui habitent ici, déplorent la porte-parole de Vélorussion. C'est sûr qu'il y a des inconvénients, mais il y a des aménagements qui existent. Il y a des stationnements pas très loin, on est capable de trouver un terrain d'entente. La conseillère municipale d'un de ces quartiers-villes, Nathalie Goulet, était présente pour cette inauguration populaire. Il faut penser à la mobilité dans un grand ensemble aujourd'hui. Mobilité active et mobilité collective doit être intégrée à la mobilité durable, fait valoir l'élu de Projet Montréal. On ne peut pas réinstaller du stationnement alors qu'on vient d'accompagner chaque commerçant durant l'implantation, clame-t-elle. La conseillère municipale affirme qu'avec ses collègues, ils vont collaborer avec la nouvelle mairesse d'Arnsic-Cartierville pour qu'elle comprenne bien tous les avantages de ce projet. Un premier tronçon du corridor de mobilité durable a été aménagé en 2024 entre la rue La Jeunesse et l'avenue Marcelin-Wilson, 2,3 km dans Arnsic. La prochaine phase, dont les travaux ont commencé au printemps, s'étendra sur 4,8 km entre la rue La Jeunesse et l'avenue des Récollets. À terme, ce chantier ambitieux vise à transformer le boulevard Henri Bourassa sur 18 km dans trois arrondissements, Saint-Laurent, Arnsic-Cartierville et Montréal-Nord. Il retirera des places de stationnement et une voie automobile par direction. Au moment où ces lignes étaient écrites, l'arrondissement d'Arnsic-Cartierville n'avait pas donné suite à nos sollicitations. C'était « Inauguration populaire du tronçon Est du rêve Henri Bourassa », un texte de Sarah Collardet, paru le 16 novembre 2025 dans Le Devoir.
La mission Old Prairie veut aider les personnes vulnérables à éviter l'itinérance. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 21 novembre 2025 dans Le Devoir. Pour répondre à l'effet tsunami de l'itinérance, la mission Old Prairie ne réclame rien de moins qu'un plan Marshall en la matière. En attendant celui-ci, l'organisme tente de réduire le flot de nouvelles personnes se retrouvant à la rue en travaillant avec les ménages à risque avant qu'ils n'atteignent le fameux point de bascule menant vers l'itinérance. Un logement à la fois. On veut court-circuiter le système, lance avec conviction le directeur de la prévention de l'itinérance à la mission Old Prairie, George Ohana. Notre approche, c'est de travailler avec la personne avant qu'elle ne se retrouve dans un contexte d'itinérance, avant l'étiquette. L'objectif, c'est de ne pas lui faire vivre le traumatisme de l'itinérance. Traumatisant. C'est justement le mot que David utilise pour décrire son passage dans un refuge pour personnes itinérantes il y a quelques mois. L'homme de 58 ans, qui a travaillé toute sa vie, n'avait jamais imaginé se retrouver à la rue. Mais, il y a quelques années, des ennuis de santé sont venus tout bousculer. Incapable de travailler, il avait de plus en plus de difficultés à boucler son budget. Puis, il a eu des problèmes avec le propriétaire de son logement qui voulait l'évincer pour faire des rénovations. « J'avais tellement de stress. J'étais paniqué, paralysé, incapable de prendre une décision. J'avais l'impression d'être pris dans un manège dont j'étais incapable de redescendre », confie-t-il au Devoir. En janvier 2025, David a mis toutes ses possessions dans un entrepôt et est allé vivre chez un ami. Mais au bout de quelques semaines, c'était devenu intenable, raconte-t-il. C'est là qu'il a demandé de l'aide à différents organismes, dont la mission Old Prairie, qui s'est affairée à lui trouver un appartement. Mais dans l'intervalle, David s'est retrouvé au refuge pour itinérants de l'Hôtel-Dieu. C'était horrible. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, dit-il. 3 mois plus tard, il a enfin obtenu un logement. Un beau grand 3,5 avec un balcon dont il est très fier. Mais on ne sort pas indemne d'une expérience d'itinérance, constate-t-il. Éviter de s'incruster dans l'itinérance. Dans le cas de David, l'intervention de l'organisme n'a pas réussi à éviter le traumatisme. Mais il a permis de réduire la période où celui-ci aurait pu s'incruster dans l'itinérance, un enjeu important selon George Ohana. On voit des gens qui n'ont pas le profil habituel de la personne sans-abri, qui entrent dans le monde de l'itinérance et qui, 3 ou 4 ans plus tard, se réveillent et disent « Je me suis engouffré dans ce milieu ». Avec son programme de prévention mis sur pied il y a 4 ans, la mission Oldbury tente justement d'intervenir auprès de ces gens qui n'ont jamais connu l'itinérance avant qu'ils ne viennent cogner à la porte du refuge. Ceux qui sont encore en logement, mais qui sont sur le point de le perdre. Les gens ne voient pas cette personne comme une personne itinérante, mais dans 6 mois, c'est la chute libre. Pourquoi attendre que la personne soit rendue à genoux? Avec son équipe, M. Ohana a développé un système s'inspirant des méthodes du courtage immobilier qu'il a adapté en courtage social. D'un côté, il a bâti une liste de gestionnaires d'immeubles subventionnés ou privés. De l'autre, des organismes le mettent en contact avec des ménages sur le point de perdre leur logement. Ils font ensuite le lien pour tenter de les replacer le plus rapidement possible. L'organisme a également développé un volet pour aider les gens à rester en logement et à renforcer ses mécanismes de triage au refuge. À ce jour, il a réussi à reloger ou à garder en logement plus de 500 ménages. Prévention. Mais comment, en pleine crise de l'itinérance, un organisme qui en a plein les bras avec ceux qui vivent déjà dans la rue en vient-il à se lancer dans la prévention? Si ce n'est pas notre mission, qui le fera? Répond du tac au tac George Ohana. Pour lui, le rôle crucial de la prévention en itinérance n'est pas assez reconnu. Il estime pourtant que c'est ainsi qu'on réussira enfin à briser le modèle de la crise éternelle. D'autant plus que, selon lui, on a passé cette étape. Ce n'est plus une crise, c'est chronique. M. Ohana réclame ainsi un plan Marshall pour l'itinérance, soit un plan d'investissement d'ordre générationnel dans le logement sur plusieurs décennies, parce qu'il y a trop de variabilité dans les politiques municipales, provinciales et fédérales dans le domaine. Je pense qu'un plan Marshall pour l'itinérance, c'est la seule voie. C'était la mission Oldbury veut aider les personnes vulnérables à éviter l'itinérance, un texte de Jessica Nadeau, paru le 21 novembre 2025 dans Le Devoir.
La loi du moindre effort. Un texte de Simon Bucci Wheaton, publié le 10 novembre 2025 dans Le Devoir. On a mis des millénaires à façonner le langage, à inventer des nuances, à bâtir ensemble des dialectes pour finalement ne plus se parler. Pourtant, si on a inventé les mots, c'était à la base pour se comprendre. De nos jours, quand quelqu'un dit espérer voir le Québec souverain un jour, il se trouve toujours quelqu'un pour lui répliquer en le traitant de raciste identitaire. Une personne émet le souhait que des enfants mangent avant d'aller à l'école. La voilà devenue une militante de la gauche radicale. C'est comme si l'échange n'existait plus. Comme si tout devait se ranger dans une seule case. On ne cherche plus à comprendre, mais plutôt à bien choisir sa chambre d'écho. Que s'est-il passé pour qu'on ne soit plus capable d'échanger sans tomber dans le dogmatisme? Friedrich Nietzsche disait que le diable est dans les détails. En d'autres mots, on se doit donc de se parler jusqu'à trouver un équilibre respectueux de part et d'autre. Mais qu'arrive-t-il lorsque le débat s'arrête? On se tourne vers l'imposition. On réplique par la force. À l'échelle de la société, ça se transpose dans la création de lois pour réduire les postes de la fonction publique, dans une loi qui s'adresse aux syndicats, dans une loi pour les médecins, dans une loi pour la laïcité, etc. Par contre, c'est étrange, on ne peut voir aucune loi spéciale pour la crise en itinérance ou sur le financement du système d'éducation. Ce n'est sans doute pas assez payant. Électoralement parlant. Mais il y aura une nouvelle loi pour réduire la bureaucratie que les législateurs ont eux-mêmes mise en place. C'est paradoxal. Tout le monde a déjà vécu une expérience semblable à celle d'Astérix et Obélix dans la maison des fous des 12 travaux d'Astérix. Mais encore faut-il faire des coupes au bon endroit. Pas en mettant fin au financement d'organismes satellites du milieu communautaire qui remplissent un rôle essentiel, même s'il est invisible depuis les bureaux ministériels. Avant de faire ses coupes, on doit prendre le temps de comprendre, car gouverner, c'est d'abord réfléchir, pas effacer. Prenons un exemple banal tiré du quotidien d'un enseignant. Un enseignant prépare ses examens de fin d'étape pour ensuite les envoyer à l'impression. Le problème, c'est que ses copies sont comptées. Il préfère utiliser l'imprimante de l'école pour imprimer des activités quotidiennes et de dernière minute. Il doit passer par le système d'impression centrale du centre de service, supposément aussi plus économique. Il téléverse ses documents sur une plateforme coûteuse à entretenir. La direction doit approuver sa demande, une personne recevoir la commande, une autre l'imprimer, une autre l'emballer et une autre la livrer. Cet endroit se trouvant à plusieurs kilomètres de l'école en question, il faut ajouter l'entretien et l'essence du véhicule de livraison dans l'équation du coût réel. Tout ça pour 16 copies recto verso qui coûtent 96 sous. Il y a aussi cette loi qui veut revoir la démocratie syndicale, mais s'attaque au filet social qui joue un rôle important au quotidien dans la vie des travailleurs. Il sera important de faire attention à viser juste pour tous et pas seulement pour celui qui paie la cotisation. De faire en sorte de redonner un réel droit de parole, y compris devant le patron, qui ne pense qu'en termes de productivité et de profit. L'essence même du syndicalisme est là. Chaque membre doit avoir réellement un vote dans un mode de scrutin bien encadré et digne d'une vraie représentativité. Il est contradictoire de vouloir défendre des causes sociales, qui peuvent être très nobles, sans utiliser les principes de base d'une démocratie, c'est-à-dire un vote pour chaque membre. C'est là que le pouvoir du travailleur réside, parce qu'à force de parler en son nom, on oublie de lui parler tout court. Si le gouvernement agissait de la sorte avec un tel mode de scrutin, on serait les premiers à monter au front, et à raison. Mais pendant qu'on défend de nobles causes dans les instances, les membres, eux, comptent leur monnaie et peinent à arriver à la fin du mois. Alors que, semaine après semaine, près de la moitié de leur cotisation va nourrir des causes avec lesquelles ils sont peut-être en désaccord. Et ce, sans qu'on les ait même consultés. Il y a, parmi ces derniers, des parents de famille monoparentale, des proches aidants, où chaque dollar compte pour nourrir leur famille et qui pourraient sans doute utiliser cet argent autrement. Il est tout de même triste d'avoir à se rendre à la création d'une loi telle qu'imaginée par le ministre Boulet. Ici, l'excès d'une minorité aura mené à la perte de la majorité. C'est facile de faire des lois, celles du moindre effort surtout. Celles qui donnent l'impression d'agir sans avoir à réfléchir. Plutôt que de discuter, d'écouter et de comprendre, on encadre, on restreint, on légifère. Pourtant, les vraies solutions prennent du temps, de l'ouverture d'esprit et du travail de terrain pour savoir ce qui se fait bien et ce qui se fait mal. Au lieu de viser les vrais problèmes, on pond des lois qui tuent l'espoir dans l'œuf. C'est normal d'être en désaccord, et c'est même sain pour une société qui veut continuer d'avancer et d'évoluer. Mais imposer, bloquer ou forcer ne fait pas partie d'une saine communication, que ce soit en amour, syndicalement parlant, en amitié ou en démocratie. Je dirais même que c'est voué à l'échec. Sans dialogue, on s'éteint. Pas juste en tant que société, mais en tant qu'humain. Les mots, c'est ce qui nous distingue des autres espèces. Si on continue de s'interdire de dire les mots, ou pire, si on finit par ne plus vouloir les entendre, on disparaîtra tous dans un long silence. C'était « La loi du moindre effort », un texte de Simon Bucci-Wheaton, publié le 10 novembre 2025 dans « Le Devoir ».